France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Psychologie.
Musique et moi. Isabelle Duquesnoy. Elsa Boublil.
Au fond, la vérité se trouve dans la nature, mais il ne faut la dire qu'aux personnes de confiance.
Eugène Cancelier. Der Vogelfänger bin ich ja, extrait de la flûte enchantée de Mozart, donc cet air de Papageno sifflé par Johnny Rass et interprété au piano par Shani Di Luca, que nous vous accueillons, Isabelle Duquesnoy, restauratrice d'art et écrivaine. Vous venez de publier La redoutable veuve Mozart aux éditions La Martinière, un portrait de Constance, donc, après la disparition de Wolfgang, le portrait d'une femme de poigne, libre et courageuse, qui lui a survécu 51 ans, et entrepris, dès sa disparition, de travailler sur la postérité de l'œuvre de son mari, et on voit qu'elle a eu raison. Bonjour Isabelle Duquesnoy.
Bonjour.
Cette phrase d'Eugène Cancelier, donc, qui était écrivain et alchimiste, que vous avez dite au début de l'émission, au fond, la vérité est dans la nature, mais il ne faut la dire qu'aux personnes de confiance, va bien avec la musique qu'on vient d'écouter. Vous ne trouvez pas ?
Ah oui, c'est tout à fait bien trouvé, oui.
L'air de Papageno de la flûte enchantée, c'est ce retour à la nature aussi. Enfin, il y a quelque chose de très enfantin et infantile, et à la fois de vrai.
On peut tout trouver dans la flûte enchantée, puisque c'est un opéra maçonnique. Donc Mozart a évidemment souhaité ajouter beaucoup de symboles, beaucoup de souvenirs, et de petites choses qu'il a stiligoutées entre les notes pour que chacun puisse, à un moment donné de cet opéra, se sentir personnellement concerné.
Il était très attaché d'ailleurs à cet air de Papageno, semble-t-il.
Oui.
Il semblerait qu'il aurait souhaité l'écouter enfin peu de temps avant sa mort, ça a été un souhait impérieux.
C'est-à-dire que de nombreuses personnes lui rendaient visite encore peu de temps avant sa mort. Et il aimait que ses amis ou les membres de sa belle famille musiciens puissent lui jouer quelques airs, oui. Et puis au moment de son décès, de toute façon, le Die Zauberflöte était joué tous les jours, puisque Constance a même appelé son médecin, le docteur Closset, en lui disant, enfin, on suppose qu'elle lui a dit « mon mari va très mal », enfin, elle ne lui a pas dit, elle a envoyé quelqu'un, « mon mari va très mal, venez tout de suite », et le docteur Closset a dit « ah non, plus tard, j'attends que l'opéra finisse ». Donc c'était vraiment un moment important, et on peut supposer que Mozart a mis toute sa foi en la vie et sa confiance en la mort. Dans cet opéra.
C'est un roman tout à fait passionnant, La redoutable veuve Mozart, qui nous plonge dans la psyché, j'ai envie de dire, de Constance, qui raconte comment elle a fait pour s'en sortir après la disparition de Wolfgang. Vous êtes mis dans la peau de Constance, on va avoir l'occasion d'en parler tout au long de cette émission, Isabelle Duquesnoy. En tout cas, on sent que Mozart fait partie de votre vie depuis longtemps.
Depuis 20 ans.
Depuis 20 ans.
Enfin, je me consacre aux recherches depuis 20 ans, mais j'ai grandi avec Mozart, oui.
Vous êtes l'invité de Musique et moi ce matin. Je rappelle que votre roman La redoutable veuve Mozart, signé Isabelle Duquesnoy, a paru aux éditions La Martinière, et donc vous êtes avec nous jusqu'à midi et demi. Samson François interprète cette valse numéro 9 en la bémol majeur opus 69 de Frédéric Chopin qui nous plonge avec vous en enfance. Isabelle Duquesnoy, vous êtes l'invitée de Musique et moi ce matin, et cette valse-là, c'est toute votre enfance.
Cette valse-là, c'est l'endormissement et la promesse d'une nuit sereine. C'est ce que mettait ma mère pour que je m'endorme sereinement, parce que je lui disais que j'avais du mal à faire le vide. Elle me disait, regarde à l'intérieur de toi pour t'endormir. Et je lui disais, j'ai peur, il fait tout noir à l'intérieur de moi. Et donc, c'était pour m'apprendre à faire le vide et trouver le sommeil. Donc,
ça a marché?
Oui, ça a marché, ça ne marche plus. Mais ça a marché, oui.
Ça parvenait à vous aider à trouver la sérénité, à vous calmer et à faire le vide?
Alors, je ne suis pas du tout d'un tempérament nerveux. Donc, je n'ai pas besoin de me calmer. Mais j'ai l'esprit d'escalier, c'est-à-dire qu'en fin de journée, au moment où tout s'apaise, j'ai tendance à me repasser ce que j'aurais dû dire, ce que je n'ai pas dit, ce que je n'aurais pas dû dire, à quel moment j'aurais dû le faire, et peut-être que c'est rattrapable, et ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, etc. Et donc je finis par m'endormir à force de me fabriquer un agenda de rattrapage. Donc, voilà, donc ça m'épuise.
Et ça dès l'enfance ?
Oh oui, très tôt. Oui.
Votre mère avait choisi cette valse de Chopin. Vos parents écoutaient de la musique beaucoup ?
Mes parents étaient mélomanes, oui, amateurs. Mon père jouait plutôt bien du piano. Et mon oncle et parrain étaient directeurs de scène du Palais Garnier. Et ma tante et marraine, première danseuse, donc l'Opéra de Paris. Oui, donc j'ai un petit peu grandi dans les étoffes des costumes, des coulisses. Oui.
Et vos parents eux-mêmes, que faisaient-ils à part être mélomanes, quel métier exerçaient-ils?
Ma mère était chef du service de psychiatrie de l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Et mon père était dans la distribution des films de guerre.
Et donc l'environnement, c'était... beaucoup de musique à la maison dès que le temps libre pointait son nez?
Même quand le temps n'était pas libre, il y avait une musique quasi permanente. Et généralement, c'était mon père qui choisissait. Donc on avait droit à tout, y compris aux marches allemandes, pour repartir en vacances, pour être sûr que personne ne rate l'avion ou le départ.
Les marches allemandes étaient à dessein, à ce dessin-là?
Oui,
c'est
oui,
vrai.
Oui, oui, c'est très désagréable. Oui.
Écoutez-les chanter, dire, c'est pire de son cœur.
Écoutez-les chanter et rire. Un extrait de Mireille de Charles Gounod par l'orchestre et le chœur de la Suisse romande sous la direction de Sylvain Kamberling. Alors là, vraiment, on peut dire, Isabelle Duquesnoy, que ça nous remet dans ce contexte qui était le vôtre, donc de parrain et oncle directeur de la scène de l'Opéra de Paris. C'est ça, c'est, oui. C'est un souvenir de l'Opéra de Paris.
C'est un souvenir.
L'Opéra Garnier.
C'est un souvenir d'opéra très particulier, oui. Comme mes parents allaient souvent au spectacle, et notamment à l'opéra, mais ils n'avaient pas toujours sous la main quelqu'un pour me garder. Et au moment de la production de cet opéra, mon père a eu l'idée de me mettre dans les loges. Et donc les habilleuses ont commencé à me vêtir et en me disant bon bah tu vas faire un petit passage sur scène. Vous savez, dans cet opéra, c'est je crois que c'est au troisième acte, au moment des fêtes de la Saint-Jean, donc la fête des moissons, il y a toute une farandole de bambins qui passent. Moi j'étais plutôt surexcitée. On me dit voilà, tu vas être sur scène, bon tant mieux, rigolo. Et on a voulu me faire enfiler un costume de garçon. Et ça, c'était absolument impensable pour moi. Et je n'ai pas cédé, j'ai commencé à pleurer, je ne voulais pas me déshabiller. Et on a appelé mon père, donc qui est venu dans les coulisses, et qui m'a mis une claque pour m'obliger à mettre ce costume de garçon. C'était dans les années 70, et à l'époque, c'était assez courant de mettre une claque à un enfant, et on n'avait pas de numéro de téléphone pour aller se plaindre. Voilà, donc j'ai pris une baffe, mais je n'ai pas cédé. Et donc il a fallu déshabiller un autre enfant pour que j'aie son costume de fille et qu'elle, elle veuille bien mettre le costume de garçon.
Et finalement, vous avez été sur scène.
Oui, j'ai fait ce bref passage sur scène avec un arceau recouvert de fleurs et j'ai essayé de voir mes parents dans la salle, mais... Et je suppose que j'ai traversé la salle avec la joue rouge, quoi, parce que vraiment, c'était une bonne claque.
Et quel souvenir cela vous a-t-il laissé? Ça vous a donné envie de monter sur scène, de faire de la danse ou pas du tout?
J'ai fait de la danse parce que ça faisait partie un peu de l'éducation classique des petites jeunes filles de mon époque. Non, ça m'a laissé le souvenir que je déteste cet opéra.
C'est vrai?
Ah oui.
Qu'est-ce qui vous déplaît?
Tout et rien, en fait. Je trouve que les voix sont désagréables. Je trouve que le sujet est cucu. Voilà, donc ça m'a laissé un souvenir cuisant.
Oui, c'est peut-être la baffe aussi qui a emprunté l'œuvre.
Évidemment, évidemment.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Donc, vos parents, Isabelle Duquesnoy, étaient passionnés de musique, mélomanes, vous le disiez, allaient beaucoup à l'opéra, on a compris pourquoi. Ils ont réussi à partager cette passion avec vous? Ils ont souhaité vous l'enseigner ou ils ont simplement partagé cette passion?
Encore une fois, dans les années 70, je suis née en 60, donc en 70 j'avais 10 ans, et à cette époque-là, en tout cas chez mes parents et chez d'autres, les enfants ne parlaient pas à table. Donc mes parents n'ont pas tenté de m'intégrer à leur passion. Je les écoutais parler, je prenais généralement les repas en pyjama et ensuite j'allais au lit, donc je n'avais pas voix au chapitre. Mais en grandissant, je me suis vite rendu compte qu'il y avait deux clans dans la famille. Il y avait le clan des Mozartiens et celui des Beethoveniens. Donc les Beethoveniens étaient le clan de mon père et les Mozartiens le clan de ma mère. Et donc ça occasionnait des disputes absolument effroyables.
À table?
Dimanche. Ah oui, oui, oui. À table, bien sûr. Bon, on ne se jetait pas de la nourriture à la tête, mais il y avait quand même quelques noms d'oiseaux qui fusaient. Et quand la famille, donc mélomanes, musiciens, danseurs, était avec nous, donc il y avait ces grosses disputes et avec les arguments de toutes sortes, y compris de mauvaise foi, et j'ai rapidement rallié le camp de ma mère, considérant que Mozart était un génie et non pas Beethoven. Donc...
Et c'est ainsi que, aussi, on va pouvoir en parler, mais il me semble que c'est ainsi que vous vous êtes mis à étudier aussi tous les Sanctus composés par les autres compositeurs que Mozart dans les Requiem, donc.
Oui, j'ai aimé les comparer tous, oui.
Thank you.
un extrait du Requiem en ré de Gabriel Fauré, le Sanctus, donc interprété par l'Academy of St. Martin in the Fields avec le chœur Sixtine sous la direction de Harry Christophers. Et voilà, les Sanctus, c'est vous en fait. Je pensais que c'était la famille en entier, Isabelle Duquesnoy, qui avait décidé d'étudier les Sanctus des Requiem à l'aune de celui de Mozart, puisque vous le disiez tout à l'heure, il y avait une véritable passion qui était vouée à Mozart dans votre famille, du côté de votre mère.
Oui, et effectivement, en grandissant, ensuite j'ai fait mes propres choix. Et j'ai beaucoup aimé les Ave Maria, mais c'est ma sœur qui a plutôt pris le dossier en main. Et je me suis davantage tournée vers les Sanctus. Et je déteste le Sanctus du Requiem de Mozart.
Parce que c'est pas lui qui l'a écrit.
Tout simplement, oui. Alors c'est peut-être l'explication, enfin c'est celle que je fournis quand on me pose la question. Je le trouve pompeux, lourdingue, vraiment pas mozartien du tout. Voilà. Et alors effectivement, quand on sait que c'est son élève qui l'a fini, c'est peut-être une explication. Et je trouve que le Sanctus de Gabriel Fauré, si on l'écoute en étant assis dans un canapé, je trouve qu'on se transforme en petite chose molle et qu'on prend petit à petit la forme du meuble dans lequel on est assis. Et pour moi, c'est une musique qui nous porte. Elle me donne l'impression qu'on pourrait mourir sans crainte, sans regret, sans douleur. Ce qui, normalement, est le but d'un requiem, n'est-ce pas? C'est,
oui.
c'est de vous emporter en douceur. Donc je trouve que ce Sanctus est très réussi.
Alors qu'il ne se voulait pas religieux, ce requiem, au départ.
Non.
Et il parvient à nous mettre dans cet état second, en tout cas d'accompagnement, comme vous le disiez à l'instant.
Alors c'est peut-être lié au son cristallin, enfin de voix d'enfant ou de voix très jeunes, voilà, qui peuvent faire penser à tout ce qui est céleste. D'habitude, j'aime pas trop les voix d'enfants, mais dans celui-ci, oui.
On va revenir à ce que vous disiez sur le clan beethovenien et le clan mozartien, tout à l'heure Isabelle Duquesnoy, parce que comment ça se manifestait? On écoutait des œuvres, on les comparait, on parlait des personnages, des compositeurs, c'était personnifié ou c'était plus autour de la musique, ses goûts très marqués d'un côté pour Mozart et de l'autre pour Beethoven?
On en parlait à table, en mangeant, et parfois subitement mon père se levait et allait jouer quelques mesures de l'air dont il parlait. Pas toujours très adroitement, souvent un petit peu bâclé, comme si son temps lui était compté. Et ensuite il revenait à table en essayant d'argumenter et les discussions reprenaient. Mais... en général, oui, mon père jouait les morceaux dont il voulait soulever le génie ou souligner la finesse, alors que ma mère lui disait « Non, joue plutôt ça, tu vas voir, c'est complètement pompé sur Mozart ».
Et ni l'un ni l'autre n'était musicologue, enfin c'était juste des oreilles averties de personnes qui avaient reçu une certaine éducation musicale.
Je ne sais pas s'ils ont reçu une éducation musicale. En tout cas, ils ont développé tous les deux ce goût très prononcé pour la musique. Et jusqu'à leur mort, ils se sont vraiment, mais véritablement bouffé le nez à propos de Mozart et Beethoven. Jusqu'à leur mort respective.
Oui. Oui, donc vous avez pris le côté Mozart. Qu'est-ce qui a motivé cet appétit pour Mozart? C'est à force de les entendre se disputer et de vous faire votre propre opinion?
Oui, et ce qui m'a décidé à écrire, donc il y a une petite vingtaine d'années, le tout premier volume des Confessions de Constance Mozart, était la possibilité de donner enfin mon point de vue, après évidemment être allée faire des recherches au Mozarteum à Salzbourg, puisqu'on m'avait véritablement ouvert toutes les archives, y compris la salle du coffre, y compris la petite cabane.
Quelle chance!
Ah ouais, la petite cabane, je l'ai eue pour moi toute seule. Et ça, vraiment, j'ai profité du moment, oui.
Quando bella te Spinetta vi presento amici miei, non dipende che da lei consolar il vostro cuore. Bella mamma, che lieta bacio, perché mai mi piace a te, ma che volta essere belli, qui bello. Io
dulce aspetto.
Se costei se non giri la fisa, non c'è fiore, non c'è fiore, non c'è fiore, non c'è più nessun tifo, non c'è più nessun tifo.
Il padrone!
Ecco l'istante, fa con arte, io qui m'ascondo.
Ragazzaccia tracotante, che fai lì, così mi gente? Ragazzaccia tracotante, che fai lì, così mi gente, così mi gente, così mi gente? Fai uscire mattinente, mattinente, mattinente. O ti so mentir con l'or, o ti so mentir con l'or.
Le sextet de l'acte 1 de Così fan tutte de Mozart, interprété par l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Nikolaus Harnoncourt. Isabelle Duquesnois, c'est une œuvre, Così fan tutte, que vous écoutez à loisir pour vous détendre, je crois.
Pour me détendre ou pour me mettre en condition. Condition d'écriture ou condition de restauration. Mais oui, j'ai besoin de Così en intraveineuse. Au moins une fois par jour.
Pourquoi Così en particulier?
Je trouve que Così entraîne la gaieté malgré soi. Donc, si je me sens heureuse, Così tombe à point nommé. Et si je me sens mélancolique ou anxieuse, Così tombe
ça
à point nommé.
Ça vient vous tirer une forme d'allégresse.
Oui.
Alors, ça nous permet de raccrocher les wagons avec la question de tout à l'heure, celle qui était comment, pourquoi vous êtes tombée dans Mozart, vous disiez, il y a 20 ans, donc vous avez eu accès aux archives. Et qu'est-ce qui vous a prise comme ça? Qu'est-ce qui a fait que finalement, dans cette famille, vous avez choisi Mozart plutôt que Beethoven?
J'ai choisi Mozart à une époque où j'étais très jeune, donc... encore en admiration devant ma maman. Et puis, probablement aussi pour le plaisir de contrarier mon père. Et ensuite, j'ai écrit. Donc, après leur disparition, j'ai écrit sur Mozart, mais je voulais passer par la voix de Constance. Et ça a été ma façon à moi d'avoir le dernier mot dans cette discussion, de clore la discussion et de réhabiliter Constance.
La discussion de vos parents, donc.
La discussion de mes parents.
Et réhabiliter Constance, pourquoi ?
Réhabiliter Constance parce qu'on en parlait très peu à cette époque-là. Ensuite, le public l'a davantage connu grâce au film de Milos Forman, Amadeus. Mais bien que le film est très beau, particulièrement bien éclairé à la bougie, les extraits musicaux sont merveilleusement choisis, mais il y a des aberrations incroyables. J'ai le souvenir de la toute première version de ce film, dans laquelle Salieri, lisant les partitions que Constance lui apporte en cachette, Salieri entend un air de musique qui n'a rien à voir avec la partition qu'il est en train de lire d'ailleurs. Et quand on fait des arrêts sur l'image,
c'est la grande partita, non ?
C'est ça. Ouais. Et à un moment, Salieri dit « Et au loin, un bandoneon qui miaule. » Bandoneon.
Oui.
Donc, ça, c'est une erreur parmi d'autres qui a évidemment été corrigée depuis. Et pour ma part, j'ai eu envie de contribuer à la réhabilitation de Constance, que l'on disait calculatrice, froide, un peu bébête, et laide.
Et donc, on va en parler tout à l'heure, mais qui a contribué à faire connaître le répertoire de Mozart bien au-delà de sa disparition. Ça n'a pas été enseveli, loin de là.
Ah non, non, non. Ça a été plus qu'une contribution, c'était même une obsession pour elle.
Thank you.
Le rondo allegro du concerto numéro 6 en si bémol majeur de Mozart, interprété par David Grelzhammer avec l'ensemble Suedama, et il dirige également cet ensemble. C'est un interprète que vous aimez beaucoup, un mozartien, oui. Comme vous le disiez, pur et dur.
Oui, j'aime beaucoup la façon de jouer de David Grelzhammer. Effectivement, il dirige son orchestre depuis son piano, comme le faisait Mozart. Son orchestre Suedama, c'est Amadeus à l'envers. Mmh. Et sa personnalité me touche, oui. Oui, son et sa façon de jouer, je trouve qu'il est très très proche de Mozart. Enfin, j'espère.
Dans cette interprétation-là, vous le ressentez?
Oui.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et l'érudite qui parle de Mozart comme si elle l'avait connu, c'est Isabelle Duquesnoy qui est l'invitée de Musique et moi ce matin sur France Musique jusqu'à midi et demi. Vous avez donc écrit La redoutable veuve Mozart, mais la question qui me vient, vous dites que ça fait 20 ans que vous travaillez sur Mozart et sur Constance, Isabelle Duquesnoy, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas devenue musicologue, que vous avez choisi complètement autre chose, parce que vous avez été restauratrice d'art?
Oui, effectivement, ma formation est une formation de restauration du patrimoine, peinture, 17e, 18e, 19e siècle, et bois doré, donc travail de la feuille d'or. Je pensais qu'il n'y avait pas de place pour plusieurs vedettes sous le même toit. Et j'avais envie d'exercer un métier qui me permettrait de voir quelque chose de beau. Et j'ai pensé que je ne pouvais pas gagner ma vie uniquement avec Mozart. Alors, je me suis dit, pour voir du beau, je vais restaurer des œuvres d'art qui sont oubliées, ou abîmées par le temps, ou entreposées comme un vieux meuble vermoulu dans les greniers, redonner un peu de dignité aux œuvres d'art, et écouter Mozart en même temps.
C'est-à-dire que c'est ça, quand les yeux et les mains sont occupés à faire, les oreilles sont toujours disponibles pour écouter votre ami Mozart.
Exactement.
Est-ce que la musique de Mozart a pu vous indiquer la voie VOIE à suivre pour la restauration d'œuvres d'art?
Il m'est arrivé plusieurs fois de restaurer des portraits dont le vernis final, toute couche picturale ancienne est généralement recouverte d'un vernis qui jaunit et qui ensuite prend une teinte de marron ou verdâtre avec le temps. Et donc quand on retire cette couche de vernis, c'est la seule étape irréversible dans la restauration d'une peinture. Et donc en retirant ce vernis sale et en voyant réapparaître le rose des pommettes, ou la couleur bleue d'un œil, ou le blanc immaculé d'une encolure, d'un col en roue de moulin, en dentelle de roue de moulin, j'avais, et j'ai toujours, besoin d'entendre Mozart à ce moment-là.
Parce que
je trouve que Mozart me donne le sentiment que ce que je fais n'est pas irréversible, mais qu'en tout cas, je ne me trompe pas en le faisant.
Thank you.
un extrait de la bande originale du film Hannibal de Ridley Scott. C'est une composition de Patrick Cassidy et le titre c'est Vide cor meum. Je crois, Isabelle Duquesnoy, que c'est une œuvre que vous écoutez, que vous avez écoutée à un moment particulier de restauration d'œuvres d'art.
Oui, toujours pour restaurer des portraits. En fait, ce Vide cor meum me donne le sentiment de pouvoir comprendre ou entendre ce que le portrait que je restaure voudrait me faire savoir. Et cet air guide mes mains, guide mes choix. Parce que quand on restaure, on nettoie, il y a parfois des trous, donc on rebouche les trous et ensuite on remet de la peinture ou de la couleur. Jamais de peinture à l'huile, mais on remet des pigments qui proposent un aspect tel qu'on pense être le bon.
C'est délicat.
C'est très délicat, oui, mais c'est toujours une proposition d'aspect qui est réversible. Et quand j'entends le Vide cor meum, c'est un peu comme si, bon, alors ça pourrait sembler relever de la psychiatrie, mais non, c'est pas de la schizophrénie. Mais c'est comme si le portrait que je restaure me guidait dans ses choix de couleurs ou dans ce qu'il a vécu.
Mais vous avez besoin de la musique pour cela.
Ah oui, 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 j'ai besoin de la musique, oui. Et très souvent, en restaurant un portrait, si j'entends le Vide cor meum, je suis vraiment à la limite d'entendre le personnage que je restaure me parler.
Et donc là, on en revient à cette phrase d'Eugène Cancelier, qui était cet écrivain et alchimiste mort en 1982. Au fond, la vérité est dans la nature, mais il ne faut la dire qu'aux personnes de confiance. C'est ça, c'est pour ça que cette phrase est votre phrase de chevet ?
Oui, parce qu'elle contient le mot vérité, qui est important,
ouais.
La nature, qui représente tout, et confiance. Et ce sont des mots qui m'animent au quotidien.
C'était votre quête quand vous avez voulu écrire La redoutable veuve Mozart, Isabelle Duquesnoy ?
Approcher au plus près possible de la vérité ou de ma vision de la vérité, oui, et qu'on cesse de considérer Mozart comme un génie marié à une gourde. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Ça fait quand même très très longtemps qu'on aime penser que les génies épousent des gourdes, mais c'est pas nouveau. Justement, oui, j'en avais assez, donc j'avais envie qu'on sache que Constance était une femme extraordinairement cultivée, d'une sensibilité très méconnue, mais capable aussi du pire.
Cosa venne, cosa venne? Il scellerato, m'ha tradito, m'ha infamato. Corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti.
La fin des noces de Figaro de Mozart par l'orchestre de chambre d'Europe sous la direction de Yannick Nézet-Séguin avec Thomas Sampson, Sonia Yoncheva, Luca Pizzaroni, Christian Karg, Rolando Villason et Philippe Sly. Pour évoquer avec vous encore ce besoin qui est le vôtre, Isabelle Luquenois, d'écouter les noces de Figaro dans ces intraveineuses quotidiennes. Il y a aussi les noces de Figaro parce que vous me disiez que ça vous permettait de vous mettre à l'écriture.
Oui, j'ai besoin d'une mise en place pour pouvoir écrire. Peut-être parce que j'écris souvent à la première personne du singulier. Donc c'est un peu comme s'il fallait pénétrer à nouveau chaque jour l'univers du personnage auquel je prête ma plume ou mon clavier. Et donc j'ai besoin de cette sorte de mise en route. Donc il me faut du thé rouge, tiède. Et Mozart, et encore Mozart, et toujours Mozart. Et quand je termine mes quelques heures d'écriture, qui sont... j'écris entre 7 et 11 heures par jour. Et quand j'arrête, j'arrête pour plusieurs mois.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pendant quelques mois, une oui. sorte d'immersion totale.
Totale, oui. Et je me couche 18e, je mange 18e. D'ailleurs, je cherche des recettes du 18e et je cuisine 18e. Et si je pouvais, je conduirais ma voiture avec une robe, avec des engageantes et un tatési.
Une belle perruque.
Oh, une perruque, oui.
Parce qu'elle aurait bien aimé, Constance, avoir une perruque. Elle le dit dans La Redoutable Veuve Mozart. En fait, elle s'est trompée presque sur son mari. En tout cas, du moins, il lui a conseillé de ne pas porter des perruques parce que ses coiffes, en fait, terribles que portaient les Parisiennes, notamment.
Il trouvait ça ridicule.
Alors, qu'elle pensait pouvoir lui plaire avec ça?
Bien sûr, elle pensait que c'était un accessoire qui le séduirait. Mais non, il lui a expliqué que ces femmes, et notamment les Françaises, qui portaient ces perruques extrêmement hautes, qui représentaient parfois un tiers de leur silhouette, il lui a expliqué qu'elles étaient obligées de se mettre à genoux dans les voitures pour se rendre aux soirées et qu'elles étaient absolument ridicules ou que parfois il fallait qu'il y ait des sortes d'armatures pour rigidifier le monticule capillaire et qu'il trouvait ça vraiment grotesque. Comme le maquillage aussi, il trouvait ça grotesque.
Mais quelle est cette douleur finalement que l'on ressent, Isabelle Duquesnoy, en lisant ces pages sur Constance? C'est l'impression à la fois d'avoir sa place et de ne pas l'avoir? Un sentiment qu'elle savait exactement où elle était, sa place, et néanmoins de devoir de nouveau la reprendre une fois Mozart disparu.
Moi, je dirais que du vivant de Mozart, Constance ne savait pas quelles étaient ses capacités. Et que la mort de Mozart, malgré le chagrin épouvantable que ça a représenté pour elle, la mort de Mozart lui a permis de se révéler.
Et de finalement trouver sa place aussi.
Et de trouver sa place et de se montrer, comme je l'ai mis dans le titre, absolument redoutable.
Thank you.
un extrait du Requiem de Mozart, interprété par l'Insula Orchestra avec le chœur Accentus, sous la direction de Laurence Equilbé. Alors, on a tous en tête, évidemment, ce Requiem de Mozart, Isabelle Duquesnoy. Ça nous plonge tout de suite dans des affres, on peut dire. On est dans votre livre, on est avec Mozart, on est avec lui. Quelle force d'avoir réussi à tellement imprégner cette œuvre. Est-ce que vous, qui avez côtoyé Mozart depuis 20 ans, vous avez une explication à cela?
Parce que sa mort représente toujours un événement tragique à mes yeux. Et comme j'ai choisi d'écrire sur Constance, je ne pouvais pas emmener le lecteur du vivant de Mozart. Dans ce cas-là, c'était un autre ouvrage. Moi, je voulais véritablement donner la parole à Constance et révéler tout ce qu'elle a fait, la femme extraordinaire qu'elle a pu être au moment de l'agonie de son mari, malgré tout ce qu'on a pu prétendre. Et j'ai surtout pu avoir accès aux archives qui m'ont confirmé de nombreuses choses qui étaient souvent contestées par les musicologues qui, généralement, aiguisent leur canine quand on écrit sur Mozart et qu'on n'est pas musicologue. Et donc j'ai rapidement compris que j'avais intérêt à vérifier la plupart des choses que j'écrivais. Et commencer ce livre par la mort de Mozart, c'était pour moi la meilleure façon de plonger le lecteur dans ce climat tragique. Et comme c'est écrit à la première personne du singulier, alors soit de s'identifier à Constance, soit d'écouter Constance vous murmurer son histoire.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Vous le dites, Isabelle Duquesnoy, Constance Mozart, entre autres choses, puisqu'elle avait des qualités incroyables, notamment de courage, de force. Ça a été une formidable femme d'affaires. Avant qu'on parle de cette qualité qui a permis d'ailleurs au patrimoine de Mozart d'arriver jusqu'à nous, est-ce que je me suis posé la question de savoir si vous avez beaucoup écouté, on l'a entendu tout à l'heure, vous écoutez beaucoup Mozart, mais est-ce que les œuvres de Mozart en tant que telles vous ont permis de l'approcher dans son caractère?
Je crois que non. Parce que Mozart avait la faculté de pouvoir écrire des choses très gaies dans des moments tragiques de sa vie. Et donc, à mon sens, on ne peut pas écouter une œuvre de Mozart et espérer faire un lien avec un événement de sa vie privée, au moment où il a composé cette œuvre. Donc il faut séparer les choses. Donc s'intéresser à sa vie privée parce qu'elle donne des éléments qui ont été pour lui propices à la composition, bien que les œuvres lui venaient en tête généralement après le repas et pendant une petite sieste. Il n'était pas comme un écrivain qui s'installe à une terrasse de café et qui note des détails en regardant passer la vie et le monde devant lui. Non, lui, c'était tout le contraire. C'était la tête froide, les pieds au chaud et le ventre plein. Et là, il pouvait composer. Alors, je dirais que pour bien connaître Mozart, il faut plutôt se plonger dans sa correspondance qui reflète véritablement ses pensées, ses inquiétudes, ses angoisses, sa fantaisie aussi, son côté brinzingue, son côté fripon, les jeux de mots qui parfois choquent le lecteur, mais le 18e siècle était vraiment un siècle de jeux de mots, de grossièreté, de plaisanterie, de scatologie, ça on peut pas y échapper. Mais c'est plus sa correspondance qui m'a permis de le connaître.
Et donc de connaître aussi Constance.
Et donc de connaître Constance, oui. Thank you.
Michel Petrucciani et Stéphane Grappelli interprètent Flamingo. Pour poursuivre cette conversation avec vous, Isabelle Duquesnoy, cette conquête de l'écriture, de la liberté, de l'identification et cette place qu'a la musique dans votre vie, là, dans cette œuvre jazz, en tout cas d'improvisation, ça vous a plongé dans une mélancolie immédiate.
Oui. Ce morceau évoque les déjeuners sous le tilleul avec ma mère.
Votre mère qui vous a transmis cette passion
pour Mozart. Pour Mozart. Oui, ma mère qui était très accaparée par ses malades. À l'époque, on ne disait pas des patients, on disait des malades. Et qui s'efforçait d'organiser pour nous deux des moments très privilégiés. Et donc, très souvent, lorsque nous déjeunions sous son arbre...
Donc un tilleul.
Un tilleul. Il y avait ce morceau de musique.
Ouais. Et pourquoi ce morceau-là?
Pourquoi ce morceau-là, je ne sais pas. Mais elle aimait le mettre quand j'arrivais ou quand nous passions à table, mais seulement quand nous étions toutes les deux. Mais je n'ai jamais su pourquoi. Mais je voyais une sorte de mélancolie, enfin ce que vous avez lu en moi, je le lisais en ma mère et j'ai pensé que peut-être, ce morceau de musique était lié à mon frère qui était décédé quelques années avant et qui avait transformé ma mère en vieille dame du jour au lendemain.
Est-ce que votre mère a su que vous aviez pu développer ou du moins poursuivre sa passion pour Mozart?
Je ne sais pas où elle est. Là où elle se trouve, je ne sais pas ce qu'elle pense non plus. Ma mère a dû sentir que j'allais continuer sur la voie de Mozart, mais elle n'a pas su que j'avais écrit plusieurs livres à ce sujet. Elle n'a pas su que le Mozarteum avait ouvert ses archives. Elle n'a pas su que le Mozarteum avait fait la préface de mon livre sur Mozart en validant mes écrits. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas su, mais je pense qu'intuitivement, elle savait que ça allait arriver.
Et cela ne vous a pas empêché, Isabelle Duquesnoy, de vous passionner pour d'autres musiques. Cette passion pour Mozart, on a beaucoup parlé de lui, mais ça ne vous a pas empêché d'ouvrir toujours vos yeux et vos oreilles à d'autres musiques.
John Cage, par exemple.
Exactement. Maro Ayemian interprète cette sonate numéro 5 pour piano préparée de John Cage, un enregistrement de 1958 au Town Hall de New York. C'est donc une œuvre, Isabelle Duquesnoy, que vous avez appris à apprécier avec le temps. En tout cas, c'est cette ouverture vers d'autres musiques. Est-ce que Mozart vous a conduit vers, par exemple, John Cage ?
Indirectement, oui.
Oui,
oui, oui, c'est à cause ou grâce à Mozart, puisque c'est David Greisamer.
Le pianiste qu'on a entendu tout à l'heure,
voilà,
mozartien.
Qui m'a fait découvrir déjà la mise en place de l'arrangement du piano avec toutes ses vis, et qui ensuite a joué cette sonate. Et j'ai d'abord été sidérée par la sonorité à la fois étouffée, métallique par moments, et je l'ai réécoutée. Et je l'ai re-regardée, et depuis j'adore, et je trouve que ça relève du génie.
Oui, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux ou aux oreilles, je dirais, c'est le rapport du son à la matière, qui est vraiment votre histoire à vous. Et je me dis, au fond, écrire sur Mozart, ou la veuve de Mozart, ou restaurer des tableaux, finalement, c'est la même chose, c'est vous êtes dans la matière de l'autre.
Oui, dans la matière de l'autre, et avec ce désir de pratiquer une sorte de médecine de l'art. Restaurer un portrait ou restaurer l'image de quelqu'un qui a été injustement vilipendé, proposer un autre aspect, oui, c'est quelque chose qui m'anime effectivement. Je n'avais pas fait le rapprochement.
Mais il fallait que ça se fasse en un moment.
Merci.
La redoutable veuve Mozart, c'est écrit par Isabelle Duquesnoy. Ça a paru chez La Martinière. Et pour ceux qui ont envie de mieux la connaître, c'est vraiment idéal de vous lire Isabelle Duquesnoy. On va se quitter sur une dernière œuvre. Il s'agit de la suite numéro 3 en ut majeur dans son prélude de Jean-Sébastien Bach, interprété par Mstislav Rostropovitch. Là aussi, il y a un lien joli de la mère à la fille, puisque là vous regardez du côté de votre fille maintenant.
Oui, ma fille Justine, qui est violoniste, non pas de métier, mais qui pratique assez brillamment le violon, et c'est le premier morceau de musique qu'elle m'a joué, qui m'a permis, enfin c'est lorsqu'elle me l'a joué ce morceau, j'ai compris qu'elle y mettait beaucoup de sentiments, qu'elle était passionnée et qu'elle le faisait pour moi. Donc ça a été un grand moment d'émotion, et ce que j'aime dans sa façon de jouer, c'est qu'elle ne se compare jamais à personne. Elle y met, comme Rostropovitch, elle y met tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle possède, elle va le mettre dans l'instant.
Eh bien voilà ce prélude de la suite numéro 3 interprété par Rostropovitch.
Thank you.
Prélude de la suite numéro 3 en ut majeur de Jean-Sébastien Bach, interprété par Mstislav Rostropovitch. Pour terminer cette émission avec vous, Isabelle Duquesnoy, un grand merci d'être venue partager cette heure et demie en notre compagnie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La redoutable veuve Mozart, donc signé Isabelle Duquesnoy, paru aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup.
Merci à vous, c'était un grand bonheur.
Un grand merci à Guillaume Leduc qui était à la prise de son ce matin. Sophie Pichon, réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique et à dimanche prochain, 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.